Toutes les musiques et les découvertes sont sur Calade, ma radio.
Calade Jazz.
Bienvenue dans Calade Jazz.
L'émission de tous les jazz.
Avec
Julien
et Richard. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Calade Jazz, je suis toujours avec Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous avons une surprise, nous sommes également avec...
Françoise.
Bah alors, bonjour
Françoise... Ah quand même, je vais dire bonjour, bonjour Françoise.
Bonjour, je suis ravie d'être de retour.
Voilà, bah, nous aussi, nous sommes ravis de ta présence dans le studio avec nous. C'est et alors avec toi, eh bien, nous allons continuer notre série d'émissions sur l'histoire du jazz... enrichi de tes connaissances en peinture sur le jazz. On est d'accord.
Pour les années 30.
Voilà. Souvenez-vous, nous avions commencé avec les années 10 et 20, donc justement aujourd'hui nous allons continuer avec les années 30. Mais pour se remettre dans l'ambiance, nous vous proposons d'écouter le dernier morceau de la dernière émission. C'est une petite piqûre de rappel, n'est-ce
pas, Julien ? Oui, c'est ça. Ouais. Donc un morceau qui est sorti en 1928, donc on est presque en 1930. Hein. Wets and Blues de Joe King Oliver, il est interprété par Louis Armstrong. On his hot five. Donc vous allez reconnaître ce fameux solo de trompette, ce qui a changé l'histoire du jazz, et ça annonce petit à petit, un peu, on n'y est pas encore, dans les années 40, le bebop. On retrouve Louis Armstrong, excusez-moi, Earl Hines, Fred Robinson, Jimmy Strong, Mansi Carrera, Zooty Siglanton et Pops Foster à la contrebasse, dont on avait parlé quand on a fait l'émission spéciale sur la contrebasse.
Tout à fait.
Bientôt. Allez, c'est parti.
Voilà, c'était West End Blues. Alors, je rappelle que la prohibition des années 1920-1933 a créé des speakeasy. C'était des bars clandestins qui servaient de l'alcool, souvent gérés, bien entendu, par des gangsters, mais dans lesquels les groupes de jazz ont pouvoir jouer de manière récurrente et de bien gagner leur vie. Et c'est Harlem qui va donner au jazz sa dimension orchestrale avec la Harlem Renaissance. N'est-ce pas, Françoise ? Mais toi, tu vas nous parler de Harlem Renaissance côté peinture, s'il te plaît.
Oui, mais en peinture, c'est aussi le quartier de Harlem à New York qui joue un rôle central. Dans cette évolution, il est au cœur de ce qu'on appelle la Harlem Renaissance. C'est un mouvement qui va durer de 1918 à 30. Et les clubs de jazz, comme le célèbre Cotton Club, deviennent des lieux majeurs de création où musique, danse et art visuel se rencontrent. Et c'est dans ce contexte que la relation entre jazz et peinture devient plus directe. Le jazz n'est plus simplement une influence, il devient un véritable sujet et un principe de création. Par exemple, un artiste comme Aaron Douglas, vous ne connaissez pas, mais c'est un des artistes.
Merci de nous le présenter.
Né à la fin du 19e, en 99, il décédera quand même en 1979, qui est l'un des premiers à avoir traduit visuellement le rythme et les dynamiques du jazz. Ses œuvres, elles ressemblent à des œuvres un peu en transparence, faites de silhouettes stylisées, de formes géométriques et de répétitions, mais pour évoquer le mouvement, la musique et surtout l'histoire afro-américaine. Elle porte un message fort en abordant les questions de racisme, de mémoire et d'identité. C'est un membre actif de la Harlem Artist Guild. Il contribue à ouvrir des opportunités aux artistes afro-américains dans l'art public. Et en 1944, il quittera la création artistique, cette institution fondée pour analphabétiser la masse d'esclaves noirs, des esclavés, on va dire, où il enseigne jusqu'en 1966, marquant durablement la formation artistique afro-américaine. Là où je voulais en venir, c'est que si la peinture a été un moyen à un moment donné, en fait, le fond du message à travers le jazz, c'est les droits des artistes afro-américains qui n'apparaissaient pas dans la peinture. Considéré comme un pionnier de l'art afro-américain moderne, son héritage influence encore aujourd'hui de nombreux artistes. Et dans un registre plus urbain et festif, on a aussi un autre artiste peu connu en France, Archibald G. Motley, né dans les mêmes années,
non plus, 91. Non plus, on ne connaît pas.
81, mais je vais vous parler de Matisse, ça va vous rassurer. Ah. Peint la vie nocturne et des clubs de jazz. Là où je veux en venir, c'est que là, si les scènes sont vibrantes, pleines de couleurs et de lumière, les couleurs vives, les contrastes forts et la lumière artificielle presque électrique, donc dans un aspect complètement différent de Douglas, eh bien en fait, l'idée c'est que sous-jacent, il y a toujours ce discours du peintre noir affirmant son identité au milieu d'une peinture plutôt réservée aux blancs, on va dire, pour les blancs et par les blancs. Donc, dans les années 20-30, lui aussi devient une figure importante de la Renaissance de Harlem, même s'il vit principalement à Chicago. Et aujourd'hui, il est considéré comme un artiste majeur de l'art moderne afro-américain pour sa capacité à documenter et sublimer la vie urbaine noire à travers une esthétique à la fois réaliste, expressive et lumineuse. Et je tiens quand même à préciser que la première exposition sur l'art noir américain, ça s'est passé au MQB, c'est-à-dire au musée du Quai Branly, où on a introduit l'idée de terme afro-américain, et maintenant on dit afro-américain et on parle de color line par rapport à la séparation des artistes noirs et des artistes blancs.
Ah, super, intéressant, très très bien.
Donc Julien, maintenant, tu vas nous faire une petite pause musicale qui va illustrer tout ça.
Moi, ça tombe bien parce que vu que tu as parlé de couleurs et de peinture, le titre que j'ai choisi parle de couleurs et de peinture aussi. Le titre s'appelle Moon Indigo, donc écrit par Duke Ellington et Barney Bigard et aussi Irving Miles. Ça a été enregistré en pleine prohibition, parce que je reprends tout ce que vous avez dit, bien entendu. Et Duke Ellington et son orchestre, c'est la star du Cotton Club. Il entre en studio pour graver une version historique de ce Moon Indigo. Pas de grand orchestre ce jour-là, mais un septet réduit, trompette, trombone, clarinette, et la section rythmique menée par Ellington lui-même au piano. Le résultat, une alchimie rare, une atmosphère intime, presque confidentielle, où chaque instrument dialogue comme une voix humaine. L'innovation d'Ellington, il bascule l'école, le trombone d'ordinaire grave s'envole dans les aigus, tandis que la clarinette de Barney Bigard plonge dans les registres sombres. Ce jeu de timbres presque cinématographique donne un morceau sa couleur unique, un bleu mélancolique, Moon Indigo, comme son titre l'évoque. Et c'est un titre qui va devenir, comme beaucoup de morceaux de Duke Ellington, ce qu'on appelle un standard de jazz qui a été repris jusqu'à maintenant. Mais là, on va écouter le maître, le Duke.
L'original.
The Duke. Voilà. «
Voilà, c'était Mood Indigo de Duke Ellington. Merci Julien pour cet excellent choix. Au début des années 1930, lorsque le jazz a commencé à prendre ses marques et à se populariser, un nouveau style musical est apparu, c'est le swing. Cette forme de jazz se caractérise notamment par son rythme entraînant, sa section de cuivre brillant et la mélodie expressive chantée ou jouée par des solistes. Les années 1930 sont donc les années des big band swing, dans lesquelles les solistes virtuoses deviennent aussi célèbres que les chefs d'orchestre. Parmi les personnalités les plus représentatives de ce mouvement, on peut citer Fletcher Anderson, Count Basie, Cab Calloway, Duke Ellington, Betty Goodman, Harry James, Glenn Miller ou Artie Shaw. Oui, Artie Shaw.
Oui. Pas le légume.
Voilà, bien d'accord. Pour que le son soit conçu de façon collective, ces orchestres offrent à des solistes l'opportunité d'improviser des solos sur un matériau mélodique ou thématique. Ces big bands, parfois composés de 16 à 20 musiciens, métamorphosent le jazz en une musique à danser, endiablée et sophistiquée. Au Savoy Ballroom, la légende raconte que l'énergie de la piste faisait vibrer le parquet au point de dérégler les montures de lunettes. Mais François, tu vas nous parler de ce deuxième aspect.
C'est-à-dire de l'énergie, tu veux dire de l'énergie. Voilà. Eh bien, ça va se passer de la même façon en peinture. Après deux artistes dont nous avons parlé, qui représentent le jazz, même s'ils essaient d'en traduire le rythme et les improvisations, on va avoir un artiste, Stuart Davis, qui va faire le lien entre le jazz et la peinture en étant influencé par le cubisme. Il développe une peinture abstraite, faite de formes fragmentées, de couleurs vives et de rythmes visuels. Et ses tableaux fonctionnent presque comme des compositions musicales, autrement dit comme des équivalents plastiques à cette énergie et à ces improvisations qui commencent à parsemer la musique, comme de véritables équivalents picturaux à la peinture. Il est considéré comme un des peintres américains majeurs du modernisme, connu pour ses œuvres abstraite, dynamique, inspirée du jazz, de la culture urbaine et de la publicité américaine. Lui, il est né à Philadelphie, mais il viendra à Paris, il sera donc influencé par Braque et Picasso, et il développera ensuite un style abstrait très personnel. Vous voyez là où je veux en venir, c'est-à-dire que quand vous parlerez des années 40, on parlera cette fois de la naissance des abstraits américains avec Pollock, et là, ça vous rassurera, vous ne rirez plus du nom des peintres, vous les connaîtrez tous.
Moi, je connais Miles Davis. Ah, mais c'est pas le même. Pardon.
Et alors, on va écouter un morceau justement de Artie Shaw.
Oui, c'est une musique qui s'écoute feuille par feuille.
Julien.
Excusez-moi. Donc c'est un morceau qui s'appelle Sugar Foot Stomp. A été écrit par King Oliver et Louis Armstrong. Et en fait, Artie Shaw, sur ce titre-là, il montre son profond respect pour les racines, parce qu'il reprend des vieux, parce que Louis Armstrong était déjà un vieux en 1936, bien que...
Il avait 36 ans.
Oui, mais c'était un vieux, ça faisait longtemps qu'il était là. Ça faisait déjà longtemps qu'il était sur la scène. Mais aussi une volonté de moderniser le son et de le rendre plus accessible sans jamais sacrifier la complexité. Et on va écouter, donc c'est sorti en 1936, Sugar Foot Stomp.
Calade.
Ma radio. Thank you.
Voilà, c'était Sugar Foot Stomp avec Artichaut à la baguette. Et au fil du temps, la ségrégation raciale se relâche aux États-Unis. Des chefs d'orchestre blancs commencent à recruter des musiciens noirs et réciproquement. Le musicologue Charles Hamm a décrit trois types de musique. La musique noire pour des publics de noirs, la musique noire pour des publics de blancs et la musique blanche pour des publics de blancs. Au cours des années 30, le jazz de Kansas City, représenté notamment par le saxophoniste Lester Young, annonce le passage de l'ère des big bands à celui du bebop, développé après dans les années 40, mais on en reparlera après, à une autre émission. Et comme tout mouvement culturel, le swing a créé une compétition en orchestre pour montrer leur talent. Ainsi, des battles ont vu le jour.
Dis-moi, battles, c'est les mêmes compétitions en danse aujourd'hui ?
C'est toujours le même cas aujourd'hui.
Okay.
Et ça a permis au groupe de rivaliser d'imagination, de virtuosité lors de concerts spectaculaires. Les lieux de ces joutes musicales étaient souvent les salles de bal où chaque groupe laissait libre cours à ses improvisations pour le plus grand plaisir du public. Version Artichaut de 1936. Hein, Françoise ?
Oui. Alors, par rapport à la question de la ségrégation en peinture, en considérant que Douglas et Motley soient des artistes afro-américains alors que Davis, considéré comme un des pionniers du modernisme, est blanc, il faudra attendre Norman Lewis pour être considéré comme le premier artiste noir de l'expressionnisme abstrait. Alors, je vous rebats les oreilles de l'expressionnisme abstrait, mais c'est vrai que nous, la peinture américaine, on la connaît surtout à partir des années 40. Et l'idée aujourd'hui, c'était de parler un peu de ceux qu'on ne connaît pas en France et qui ont mis en place justement ces artistes qui vont jouer avec la peinture comme vous jouez avec la musique, c'est-à-dire les Pollock et autres artistes jusqu'à Basquiat.
Bien. Alors, une autre pause musicale, Julien ?
Oui, du coup, tu nous parlais de Lester Young. Donc, on va passer un morceau qui s'appelle Lester Lips In, qui est un morceau de Lester Young qui est interprété par le Kansas City Seven. Donc, le Kansas City, City Seven, c'est un orchestre de Count Basie. Il s'apprête le 5 septembre 1937 à graver ce morceau qui va devenir un classique instantané, Lester Lips In, composé par, comme je disais, Lester Young lui-même, qui est aussi le saxophoniste un peu attitré de Billie Holiday, hein, qui joue souvent avec elle. Et il y a ce qui va être rigolo, c'est que à ces époques-là, il y avait toujours plusieurs saxophonistes. Et ensuite, on va parler d'un autre saxophoniste qui s'appelle. qui s'appelle Coleman Hawkins. C'est souvent, il y a toujours des oppositions entre saxophonistes, entre musiciens et tout ça, qu'on peut retrouver dans les années 60 aussi. Alors parce que chacun avait des sons différents, mais c'est des sons qui ont inspiré tous les autres saxophonistes dans les années 40, 50 et 60. C'est vraiment des gens qui ont inspiré tous ces musiciens. Lester Young, on l'appelait aussi Porky Pie Hat, qui est un chapeau à bord rond. Comme ça, et dont Mingus a fait un super hommage qui s'appelle Goodbye Porky Pie Hat. Je vous invite à aller l'écouter, c'est un super morceau, une très belle ballade de Charles Mingus, qui est un contrebassiste des années 40-50. Et du coup, on va écouter Lester Lips In.
On peut traduire. Thank you.
Voilà, c'était Lester Lips Inn. Alors, les groupes de swing ont attiré des foules avec leur intensité, jouant des riffs de blues rapides et bruyants avec des solistes virtuoses. Et tout à coup, grâce à des musiciens tels que Coleman Hawkins, Lester Young et Ben Webster, le saxophone ténor est devenu l'instrument le plus fortement identifié avec le jazz. Et là, tu nous as choisi un magnifique morceau, Julien.
Oui, un magnifique morceau que je crois qu'on a déjà passé. Parce que je voulais faire... on a écouté Lester Young. Il fallait, du coup, de toute façon, écouter Coleman Hawkins. Alors, cette version de Body and Soul, elle est très, très pertinente parce que c'est vraiment le premier, on va dire, solo moderne. Solo improvisation sur un morceau de jazz moderne. Il est d'une richesse mélodique et rythmique exceptionnelle et préfigure même les innovations de Coltrane, voire de Ornette Coleman, donc dans les années 50 et 60. À l'époque, c'est un choc. Les musiciens et le public découvrent un saxophoniste ténor qui pousse les limites de l'instrument et de l'improvisation. Donc, il a été enregistré aussi en 1939, le 11 octobre. Et il grave pas seulement un disque, il grave un manifeste, c'est Body and Soul, et ça devient son hymne. Et c'est un tournant dans l'histoire du saxophone, comme je le disais. Et c'est un pilier, Body and Soul, du répertoire du jazz. C'est aussi un standard, un peu comme Moon and Dingo et comme beaucoup de morceaux qu'on est en train d'écouter. Et encore aujourd'hui, ce solo est étudié et admiré par tous les musiciens. Tout saxophoniste doit apprendre le solo de Coleman Hawkins dans tous les jolis conservatoires de la France entière et du monde entier. Donc, Body, le corps, and soul, l'âme.
C'était Body and Soul. Et alors maintenant, on va parler un peu de l'arrivée de la radio. Parce que le jazz était considéré dans les années 30 comme une musique de variété ou venant du music hall. Et la musique, quelle qu'elle soit, restait un programme de divertissement culturel très prisé des auditeurs des différentes stations d'État et privées. Et dans les années 30, la radio se professionnalise. Les temps d'antenne des stations multipliés par 2 à 3 proposent une diversification des programmes qui fait que ce nouveau média devient par exemple le premier loisir des Français. Et la musique blanche pour des publics de blancs, les musiciens de jazz comme Glastonbury bénéficient d'un premier temps de très peu de temps d'antenne, les radios préférant jouer la musique des chanteurs de jazz blancs. Bon, rien, toujours au même problème. Mais là, Julien, tu as trouvé aussi un excellent morceau.
Oui, parce que du coup, tu parles de chanteurs, hein, donc on va se mettre à écouter un peu de chansons. Alors, on va revenir un peu dans le temps. Hein. Harlem, fin des années 1920, dans l'efférence des nuits de Coney Inns, un nightclub mythique, né une mélodie qui va traverser les décennies. C'est Honey Suckle Rose. Fat Waller, il était connu pour son grand sourire, son gros visage avec ses chapeaux. Il faisait guignol sur son piano et tout ça. C'est ce qu'on appelle le roi du piano stride. Alors, le piano stride, pour ceux qui connaissent, c'est on joue une basse, on fait un accord. On joue une basse, on fait un accord. On fait une joue une basse, vous avez poum plein, poum plein, poum plein, poum plein, avec le swing. Et on improvise quelques notes au clavier. Et son complice, Andy Razaf, commence à écrire comme ça des paroles. Problème, au bout de, je sais pas, de 2 ou 3 jours, Waller, il oublie tout. Il sait plus. Il connaît même pas le morceau, il a tout oublié. Et Razaf, lui, s'en souvient, il ajoute des paroles pleines de sous-entendus, grivois, un mélange de poésie végétale, chèvrefeuille rose et de jeux de mots coquins. Très vite, il s'impose comme un standard de jazz, irrésistible pour son rythme entraînant et son humour espiègle. Et là, on va écouter une version qu'il a enregistrée en 1934. C'est la version la plus connue sous le label légendaire qui s'appelle le label Victor. On retrouve pas mal de choses enregistrées sous le label Victor. Et donc, on va écouter Honey Suckle Rose, qui a été repris par des grands, Louis Armstrong, Benny Carter, Django Reinhardt et Ella Fitzgerald. Avec un peu de malice, on peut faire des très grands morceaux. C'était Honeysuckle Rose. Et alors maintenant, on va parler un peu des femmes, parce qu'au cours des années 20, émergent de nombreuses musiciennes comme Bessie Smith. Avec le temps, elles deviennent l'une des chanteuses les plus respectées de tous les temps, influençant des chanteuses comme Billie Holiday.
Lovie Austin, Lil Harding Armstrong sont souvent cités comme les deux meilleurs pianistes de jazz blues de l'époque. Lovie Austin est une chef d'orchestre, pianiste, compositrice, chanteuse et arrangeuse. La pianiste Lil Harding est membre du groupe de King Oliver et son mari, Louis Armstrong, et continue de jouer du piano dans le groupe d'Armstrong, les Hot Seven. C'est également l'époque où la pianiste et compositrice Mary Lou Williams, la première dame du clavier jazz, atteint la renommée d'abord au sein du groupe d'Andy Kirk, puis en solo. Et à partir des années 30 et un peu 40, de nombreuses chanteuses de jazz comme Bessie Smith ou Billie Holiday sont reconnues comme artistes à succès dans le monde de la musique. Ella Fitzgerald, surnommée la première lady de la chanson, est la plus célèbre chanteuse de jazz aux États-Unis pendant un demi-siècle. Elle chante des ballades, du jazz et peut imiter tous les instruments de l'orchestre. Elle a travaillé avec les plus grands, notamment Duke Ellington, Count Basie, Nat King Cole, Frank Sinatra, Dizzy Gillespie ou encore Benny Goodman. Les paroles parfois engagées, comme celle de Strange Fruit, popularisée par Billie Holiday, marquent le début d'un jazz citoyen qui s'écrira avec Nina Simone ou Archie Shepp. Et comme par hasard, nous allons écouter...
Strange Fruit.
Voilà.
Alors, c'est un morceau qui a été écrit par Abel Meeropol. Ça se passe en New York, c'est le 20 avril 1939, c'est dans un tout petit studio, Billie Holiday enregistre pour le label Commodore un morceau qui va marquer l'histoire. Pas de fanfare, pas de swing entraînant, mais une mélodie lente, presque funèbre, portée par la voix brisée de Lily Day, c'était le surnom de Billie Holiday. Les paroles, un poème glaçant d'Abel Meeropol, un professeur juif new-yorkais inspiré par une photo d'un singe, de lynchage. Des fruits étranges pendent au peuplier. Columbia, la maison de disques de Billie Holiday, refuse de le produire. Trop subversif, Holiday Ducro se retourne vers ce label qui s'appelle Commodore, un petit label engagé. Le disque sort, se vend à 1 million d'exemplaires, mais les radios le boycottent. À l'époque, dénoncer les lynchages, c'est prendre un risque. Billie Holiday, elle assume. Chaque soir au Café Society, elle interprète ce morceau dans le silence absolu avant que la salle n'explose en applaudissements. Strange Fruit n'est pas qu'une chanson, c'est le premier cri musical contre le racisme aux États-Unis, un texte qui transforme l'horreur en art. Aujourd'hui encore, il résonne comme un rappel. La musique peut être une arme.
Magnolia,
c'était Strange Fruit, magnifique. Que dire de la passion du jazz ? Eh bien, il faut dire qu'ils étaient quelques jeunes gens, fort peu nombreux dans le Paris au début des années 30, à se reconnaître avec passion dans une musique américaine que l'on peut entendre en Europe depuis 1917. Mais les disques de jazz qui venaient des États-Unis étaient rares et chers. Mais je crois que François, tu as quelqu'un qui était un pas tout jeune, qui était passionné de jazz.
Oui, il était plus très jeune, c'est vrai. Il avait déjà une cinquantaine d'années quand il va découvrir le jazz à Paris. C'est en 30 hein, qu'il va...
C'est qui ?
Devine, hein, celui dont on parle en ce moment dans tout Paris avec l'exposition Matisse.
Nous, on habite à Villefranche-sur-Saône.
Oui, ouais, mais j'ai vu de la pub en passant. Et Henri Matisse, donc, va à 60 ans voir un passage à vide. Donc, il va partir à Tahiti. Et quand il revient, il va recevoir la commande d'un certain Dr. Barnes pour sa fondation à Philadelphie de la danse. On est donc dans les années 30. Or, si vous allez à cette fameuse exposition à Paris, qui fait le plein, qui joue à guichet fermé, on vous présente un Matisse ouayant découvert la gouache découpée à partir des années 40 comme une révolution avant sa mort, après une grande opération qui lui aurait fait redécouvrir la vie. Donc on peut toujours rester critique par rapport à certaines découpes dans l'histoire de l'art, un peu comme pour la musique d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'exposition qui est remarquable, hein, qui nous présente son fameux album Le Jazz, c'est pour ça qu'on le met dans toutes les émissions de jazz, eh bien, publié en 1947, en fait, il y a eu déjà des expériences bien avant pour une œuvre qu'il a réalisée, mais qui ne peut pas être transportée au Grand Palais et qui reste au Musée d'Art Moderne. C'est la danse de Matisse. Il se plante dans les dimensions. Ça s'appelle la danse inachevée. Il va la recommencer. Et on en a donc deux versions au Musée d'Art Moderne. La version où il s'est trompé dans les dimensions et une copie de celle qui est restée à Philadelphie. Alors tout ça pour en arriver à l'histoire des gouaches découpées. Et l'histoire des gouaches découpées, bah, c'est exactement ce qui se passe dans le jazz. Parce que le problème dans l'histoire de l'art, le grand débat depuis la Renaissance, c'est la suprématie de la ligne sur la couleur ou la couleur sur la ligne, hein, les Florentins et les Romains. Et lui a résolu le problème en découpant dans la couleur.
Bien, merci Françoise. Alors Julien,
on va passer du coup à Benny Goodman, un morceau de Louis Prima, Sing Sing Sing. Lui-même, Goodman, qualifiait ce morceau de Killer Dialer, un morceau conçu pour électriser les foules et montrer toute la puissance d'un big band et sa marche. Dès sa sortie, le titre devient un tube planétaire, un hymne de l'ère swing. Les concerts de Goodman ne se terminent plus sans lui et les solos s'allongent, parfois jusqu'à 12 minutes en live. Et on va écouter Sing Sing Sing.
Radio.
Voilà, c'était Sing Sing Sing. Et on peut se poser la question, comment le jazz, né aux États-Unis, a-t-il conquis le public français dans les années 30? C'est d'abord par la circulation des artistes et la structuration de groupes d'amateurs. En France, le jazz fait son apparition à Montmartre avec l'arrivée de musiciens des troupes américaines qui s'installent dès 1917. Très vite, le Harlem in Montmartre gagne d'autres lieux prisés de la capitale, où se côtoient artistes américains et français, artistes noirs et blancs. Joséphine Baker, meneuse de revue à Broadway, s'installe à Paris en 1925 et rencontre un très grand succès avec la danse sauvage au Théâtre des Champs-Élysées. Un groupe d'amateurs de jazz crée en 1934 le Hot Club de France, qui contribue à la diffusion du jazz et à sa reconnaissance par l'organisation de concerts et de divers événements. N'est-ce pas, Françoise ?
Autrement dit, c'était la revue Nègre dont tu veux parler. Hein. Et la revue Nègre, oui. On utilisait Nègre à l'époque, même pour l'art africain et l'art océanien, qu'on ne différencie pas, on parlait d'art nègre. Et ça était aussi une influence importante par rapport aussi aux expositions coloniales et les influences des cultures dites exotiques, et puis aussi les formes populaires qui vont réapparaître tant dans le jazz que dans la peinture.
Très bien. Donc on va écouter un morceau tellement célèbre qu'on ne va même pas le présenter, n'est-ce pas, Julien ?
Alors oui, du coup, on dit que souvent les Afro-Américains ont inventé le jazz, mais un petit Français, voire même d'origine manouche, hein, a vraiment apporté vraiment quelque chose à cette musique, a rajouté quelque chose en plus. Avec une formation qui se faisait pas du tout ou très peu aux États-Unis, on retrouvait souvent deux guitares, un violon, une contrebasse. Voilà. Ils ont créé avec son copain, donc on parle bien sûr de Django Reinhardt et de son ami Stéphane Grappelli, un morceau, un chef-d'œuvre qui arrivait comme ça. Ils s'accordent avant un concert et d'un coup ils se trouvent une petite mélodie. Oh super, oh bah c'est sympa ça. Et Minor Swing est né. On va écouter une version qui a été enregistrée en 1937. C'est le quintet du Hot Club de France avec Joseph Reinhardt, Eugène Weiss et Louis Vola, en plus de nos deux célèbres musiciens. Et ici là, le tube légendaire. Je sais que le groupe très connu Un Soir de Swing ouvre tous ses concerts avec ce morceau.
Voilà, c'était Minor Swing. Et alors maintenant, je voulais vous présenter Slim et Slam, vous ne connaissez pas ?
Ah non.
Eh bien, c'était un duo musical actif à la fin des années 30 et au début des années 40. Il était composé de Bully Gaillard, dit Slim, chant, guitare, vibraphone et piano, et de Leroy Elliott Stewart, dit Slam, basse et chant. Alors, il produisait des morceaux de jazz originaux caractérisés par le style vocal distinctif, mêlant scat, argot et néologisme. C'est-à-dire qu'il prenait des syllabes de plusieurs langues étrangères et ça donnait des mots différents. Alors on va écouter, ça s'appelle Tipitin et vous me direz ce que vous en pensez après.
Tipitin, 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 kept on stealing she had a feeling she was satisfied. Tippity-tippity-ten, tippity-ten, tippity-tippity-ton, tippity-ton. She was saying, go, sir, so he held her closer. That's how he complied. Tippity-tippity-ten, tippity-ten, tippity-tippity-ton, tippity-ton. Kept on stealing till she had a feeling she was satisfied. Not a young Manuel, he held her like this, this lovely miss, and then stole a kiss, this fellow. He said he was glad he met her, and soon he would come and get her. But she said, no, no, I cannot go until I know you better.
Voilà, c'était Tippitine, vous avez rien compris, hein, on est d'accord.
Bon.
On va parler de la perception du jazz et des critiques, parce que c'est à cette période que le jazz commence à être accusé d'immoralité. Pour les anciennes générations, le jazz menace la morale traditionnelle en promouvant les valeurs décadentes.
Comme le hard rock dans les années 80.
Voilà. Il y a un professeur, Henry Von Dyck, qui était enseignant à Princeton, qui a dit « Le jazz, ce n'est pas de la musique, c'est une simple irritation des nerfs auditifs, une provocation à la passion physique. » Alors, vite un morceau de musique, Julien, vite. Pour se remettre.
Donc le jazz et l'Afrique, l'Afrique et le jazz, le jazz et l'Afrique et Caravane.
C'était Caravan, interprété par Duke Ellington, je crois.
C'est ça, voilà. Et son orchestre.
Mais nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Alors aussi, quel est l'héritage des années 30? Si la trame harmonique du jazz des années 20-30 reste majoritairement proche du blues et de la chanson populaire américaine, Duke Ellington, Art Tatum ou Earl Hines osent des modulations audacieuses qui annoncent déjà le bebop et les constructions de Wayne Shorter. L'usage du chromatisme, du contrepoint, impose la liberté tonale. Un chemin tout tracé pour Monk ou Bill Evans par la suite. Les mélodies souvent chantées d'abord laissent la place à une expression instrumentale unique et virtuose. Il n'existe pas de jazz moderne sans improvisation. Les années 30, c'est la cristallisation d'un art de l'instant. Une histoire qui s'écrit en temps réel. Les solides de Louis Armstrong ou les phrases acrobatiques de Coleman Hawkins ont posé la règle du jeu, et ce jeu est encore celui d'aujourd'hui. Dans l'Amérique ségrégationniste, le jazz fut d'abord un cri de liberté. Les clubs de Harlem étaient des lieux de résistance, de fierté noire, mais aussi d'échange interclasse et interethnique. Et dans cette musique naît l'idée d'inclusion, un melting pot qui inspire aujourd'hui les brassages du jazz world.
Wow.
C'est la base du groove moderne aussi, n'est-ce pas, Julien?
Aussi, oui.
Voilà, tout à fait.
Et...
Oui.
Ah non, vas-y, continue.
Ah non, mais j'allais finir.
Ah oui, t'allais finir.
Vas-y, on va se dire au revoir.
On se dit au revoir.
Alors, merci mes amis. Merci Françoise.
Ah, j'ai appris plein de choses.
Bon, merci Julien.
Merci tout le monde.
Alors, nous continuerons cette aventure jazz dans d'autres émissions. Merci chères auditrices, auditeurs pour votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez nous réécouter le dimanche à midi et le jeudi à 19h. Et en podcast, bien sûr, sur le site de Radio Calade. Alors, on se quitte sur un dernier morceau, Julien.
Oui, un petit morceau d'une petite inconnue, chantée par une petite inconnue en 1938. Et cet enregistrement marque la naissance d'une star. Chick Webb, le batteur et chef d'orchestre, croit en Ella. Et en ce morceau qui s'appelle « Tisket on Tasket ». Et malgré les réticences, ils vont enregistrer ce morceau. Et c'est une des premières fois qu'on entend notre Ella Fitzgerald. Au revoir tout le monde.
Au revoir. Merci pour cet hommage.
Yes, on the way I dropped it, a little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh gee, I wish that little girl I could see. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was the joy of mine. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little yellow basket.